carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lucien Clerc, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour nous présenter les rencontres d'Arles de la photographie qui se déroulent du 4 juillet au 18 septembre 2011 à Arles. C'est un petit peu votre capitale, devrais-je dire, puisque vous y êtes né en 1934, que vous y avez grandi, fait vos premières armes en photographie et que vous y avez fondé les rencontres d'Arles de la photographie qui sont devenues un rendez-vous incontournable et même international. On peut le dire, c'était en 1968, en compagnie de vos amis Michel Tournier et Jean-Maurice Rouquette, que vous avez eu cette belle idée. Vous avez fait venir à Arles des photographes du monde entier, en particulier de très grands photographes américains et japonais peu connus alors en France. Depuis, les rencontres d'Arles ont atteint une vitesse de croisière presque académique, puisqu'il s'agit de la 42e édition cette année. Cela n'empêche pas les rencontres d'Arles de s'étiqueter « institution culturelle non conforme » pour les 60 expositions qu'elles présentent cette année à travers toute la ville. Un rendez-vous donc unique en son genre, plébiscité depuis longtemps par un large public d'amateurs et de professionnels de la photographie d'auteur. Alors Lucien Clerc, en quoi consiste la subtile alchimie qui fait le succès des rencontres d'Arles ?
Je pense que d'abord ce sont les premières qui ont eu lieu. Il faut savoir que lorsque c'est tenu résultant de mai 68, et à cette époque-là, il y avait un grand chamboulement photographique puisqu'on faisait des photos partout dans la rue, les reporters en particulier, mais les reporters ne voulaient pas qu'on les identifie. Donc, le chef de file étant Cartier-Bresson, étant le plus féroce de tous, et on le photographiait, sortait son canif, les photographes, on ne savait pas la tête qu'ils avaient. Or, lorsque nous avons commencé ces rencontres, on a sauté sur l'idée de Michel Tournier qui faisait à l'époque des émissions de télévision qui s'appelait Chambre Noire et il montrait des photographes. Alors on les voyait vivre là sur l'écran. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne ferais pas une émission, enfin le reflet d'une de ces émissions, en public chez nous ? Et c'est ce qu'il a fait et ça a été tout de suite un triomphe. On s'est rendu compte qu'en effet il y avait une demande, que le public voulait reconnaître ces gens dont il voyait les images partout. Et ça a été ça, le coup d'envoi. Voilà. Alors, se sont greffés petit à petit des ateliers, des expositions. Et disons le mot, nous étions au début multidisciplinaires. Il y avait du théâtre, de la danse, de la musique, etc. Et peu à peu, tout ça s'est effrité au profit de la photographie seule. Voilà.
Alors, comment vous expliquez que cette petite ville, Arles, là, quand même, parce que c'est une manifestation qui prend corps dans la ville, mais qui, même la ville a l'air de vivre au battement de cœur, j'allais dire, des rencontres d'Arles, parce que ça a vraiment une implication importante, je trouve, enfin j'ai l'impression. Et comment cette ville est partie comme ça, l'air de rien, à la conquête du monde au niveau de la photographie. Là, pour la photographie, c'est un grand moment culturel pour la région, qui dépasse les frontières de France aussi, non ?
Il est important d'avoir des racines. Alors, lorsque j'ai été invité par Edward Steichen, qui était à l'époque conservateur de la photographie au Musée d'Art Moderne de New York, lorsque je suis arrivé, je n'avais qu'une obsession, moi, c'était de voir Guernica. Et pour aller voir Guernica, il fallait traverser les salles de photographie. Et lorsque je suis rentré à Arles et que j'ai vu mon ami Rouquette, conservateur des musées, notamment du musée Réattu, je lui ai dit, écoute, la photographie, c'est important, puisque pour aller voir Guernica, il faut traverser les salles de photographie. On va commencer une collection de photographies. Ce que nous avons fait de briques et de brocs, de donations, d'amis, des trucs. Et petit à petit, ça a grandi, puisque nous avons maintenant 4500 œuvres. Nous avons créé ensuite, avec les rencontres, le prix du livre. Ce prix du livre fait que maintenant, la bibliothèque de l'École nationale de photographie à 18 000 volumes sur la photographie. C'est la deuxième bibliothèque de France dans ce domaine. Et enfin, dans les années 80, au début des années 80, dès que M. Mitterrand a été élu, nous avons ouvert l'École nationale de photographie, qui est devenue depuis École nationale supérieure. Donc voilà des racines absolument inamovibles, parce que vous avez le savoir absolu, le livre, l'enseignement, et puis le côté ludique des soirées au Théâtre Antique. Alors évidemment, on a un lieu que personne n'a. Nous avons le Théâtre Antique, nous avons le charme, le charisme, je dirais, de cette ville, car tout le monde vous le dit. on vous dit, mais comment ça se fait, il y a quelque chose à l'arbre? Ben oui, il y a quelque chose de plus qu'ailleurs, parce qu'elle est face au vent, que les architectes, les urbanistes qui ont conçu la cité l'ont fait astucieusement. Ce ne sont pas des tracés au cordeau, mais c'est tout en tournis, comme ça. Et alors, on découvre chaque fois quelque chose qu'on n'attendait pas. Et je pense que c'est ce qui attire les gens et les photographes, parce que, évidemment, moi, dès que je sors de chez moi, je vois toujours quelqu'un, désormais, son téléphone à la main pour photographier un détail de ma maison, d'ailleurs, mais aussi de celle qui m'entoure.
La mise en place d'une nouvelle formule du festival, il y a 10 ans, semble remporter un vif succès. En quoi consiste cette formule, disons ?
Eh bien, soyons clairs, elle repose sur l'argent. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Lorsque nous avons engagé M. François Hébel, que nous avions déjà engagé des années plus tôt et qui nous avait quittés pour diriger l'agence Magnum.
Mais, qui est donc le directeur là, des rencontres
voilà,
d'art.
Voilà, François Hébel est donc le directeur des rencontres depuis une dizaine d'années et il avait des exigences financières assez élevées. Et j'ai dit au conseil d'administration qu'il avait raison, mais qu'il apporte l'argent pour se faire payer. Et comme il apporte 10 fois plus l'argent que ce qu'il lui faut pour se faire payer, on ne peut que s'incliner. Grâce à ça, il a trouvé le chemin pour faire venir les gens qu'il faut de fort loin. Et comme il est un garçon particulièrement doué dans la communication et il a rencontré des gens qui apportent leur soutien, et il faut dire aussi que Maya Hoffman, qui est née à Arles et qui après a fait ses études en Suisse ou ailleurs, mais elle a un lien à Arles, elle a une très belle maison dans le pays et toute sa famille d'ailleurs. Maya nous a aussi beaucoup aidés. Donc c'est important ça d'avoir quelqu'un qui a une vision pragmatique des choses. C'est tout à fait logique, bah, pour faire quelque chose, il faut de l'argent. Nous, lorsque nous avons commencé, nous n'avions pas un sou. On le faisait vraiment, comme on dit vulgairement, avec l'huile de coude. Et l'huile de coude, ça dure un temps, mais ça finit par s'épuiser. Alors désormais, les rencontres sont sur la bonne voie et nous en sommes très heureux.
Oui, parce qu'il y a eu un moment où les choses ont failli s'achever. Enfin, les rencontres étaient en péril. Donc ça semble rétabli.
Il faut être quand même...
Ça demeure fragile.
Il faut modérer
toujours
les choses. Lorsqu'on dit que les rencontres étaient en péril... Effectivement, c'était un problème de finance, mais aussi un problème de vision. Voilà.
Oui,
nous visibilité. N'avions pas eu assez, probablement, d'ambition. On était un peu dépassés par les événements. Et François Hébel a eu très vite, lui, une ambition mondiale. Et il l'a tout de suite dominé. Son éducation, son côté totalement bilingue, a facilité grandement les choses.
Alors, cette année, au programme, le Mexique.
Oui.
Le Mexique a un petit peu sauvé des eaux quand même.
Ah ben, rattrapé par les cheveux, oui.
En la mesure où, comme chacun le sait, l'année du Mexique en France a été annulée en mars dernier. Alors, que donne le Mexique en image à Arles pour cette édition 2011 ?
Je vais vous dire, je suis très touché que ce soit le Mexique parce qu'en 1975, j'avais conduit un atelier et il y avait un Mexicain dans les étudiants qui s'appelle Pedro Meyer. Et lorsque l'atelier a été terminé, il m'a dit « Vous permettez que je vous fasse une interview ». Comme je parle espagnol, les choses étaient faciles. Et très bien, puis il est parti. Et 6 mois après, je reçois une lettre. Conseil mexicain de la photographie, président Pedro Meyer. Ah ben, je dis « Non, il est allé vite, lui ». Et il m'invitait, avec d'ailleurs Gisèle Freund, à participer aux premiers actes du congrès de ce conseil mexicain qui, en fait, est devenu le conseil de l'Amérique du Sud. Et si vous voulez, ça a été pour moi un des très grands moments de ma vie des rencontres. Ça a prouvé la force et l'importance des rencontres qui ont permis à un continent entier, de trouver son identité photographique. Donc aujourd'hui, nous invitons le Mexique. Alors malheureusement, Pedro Meyer n'a pas voulu venir pour les histoires politiques sur lesquelles nous n'allons pas nous étendre. Ça le regarde, je le regrette parce que c'est un très bon ami. Mais il y a beaucoup d'autres Mexicains et des surprises, dont cette fameuse valise mexicaine qui est évidemment le grand point d'interrogation.
Alors revenons un petit peu sur cette valise que vous venez d'évoquer. C'est cette valise de Frank Capa. Retrouvé, perdu en 1939, au moment de la guerre civile espagnole. Et alors, je vous laisse raconter cette histoire, peut-être,
oui, enfin, Monsieur Clerc. Si vous voulez, il faut aussi là faire un petit peu d'histoire et se souvenir que dans les années 20, lorsque Edward Weston part avec Tina Modotti à Mexico rejoindre l'intelligentsia communiste de l'époque, c'est-à-dire Rivera, Orozco, Siqueiros et Frida Kahlo, il y a un jeune photographe qui est Manuel Alvarez Bravo. Et Manuel Alvarez Bravo, par chance, a eu une longue vie, il est mort à 102 ans. Donc nous l'avons connu, il est venu nous voir à Arles et tout. Donc il y a un passé mexicain de la photographie qui s'est particulièrement éveillé grâce au contact du photographe américain Weston, qui a bouleversé les peintres de l'époque et qui a certainement inspiré beaucoup de photographes de cette époque-là, et en particulier Manuel Alvarez Bravo, qui a une œuvre considérable. Donc il y a un passé mexicain, une aventure. Alors, cette histoire de la valise mexicaine, c'est évidemment ce groupe de photographes qui ont marqué les photos de la guerre d'Espagne notamment. Bon, les relations Espagne-Mexique, on comprend vite qu'elles étaient à un niveau très favorisé, et en particulier au niveau politique, puisque ce groupe intellectuel et artistique était très orienté à gauche. Donc, on a retrouvé cette valise il y a très peu, où il y avait des tas de négatifs fort heureusement bien conservés.
De Robert Capa.
De Robert Capa et de aussi, je crois qu'il y a Seymour et il y en a deux autres qui étaient dedans. D'ailleurs, c'est une de mes anciennes assistantes qui a tiré certaines des photos de Capa en particulier, puisque Teresa Engel a beaucoup travaillé à New York avec le frère de Bob Capa, Cornell, que j'ai très bien connu, et qui lui a demandé de tirer les photos de son frère.
Alors, cette valise s'est retrouvée au Mexique par la filière de ces Espagnols réfugiés en France, dans le camp d'Argelès, et qui avait été sauvée par le président mexicain, enfin, voilà, pour pouvoir les diriger vers le Mexique, où ils retrouvaient la liberté. Et la valise en question a dû transiter à ce moment-là et était perdue, et on est retombé dessus. Donc, c'est la première fois que ces clichés sont exposés en Europe ?
En Europe, oui.
Il y a eu une première exposition avant.
Bon, c'est important. C'est quand même tout un... Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute une école mexicaine de photographie qui donc s'est épanouie un peu, je pense, grâce à cette rencontre de 1975, où tout d'un coup, ça s'est mis à exploser. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut situer les choses dans leur temps, dans les années 70. En Amérique du Sud, ça a bardé. Et tous ces photographes qui faisaient notamment des photos au Guatemala et dans tous ces pays révolutionnaires ne pouvaient pas montrer leur travail. Et tout d'un coup, là, ils pouvaient le montrer chez eux, dans leur continent. Alors, ça a marqué énormément. Et là, vous avez toute une génération de photographes. Et nous aurons, entre autres, Graciela Iturbide, qui est une des plus grandes. Donc, ça va être une fête mexicaine. Comme j'adore parler espagnol, je vais me faire plaisir.
Vous allez exposer des artistes beaucoup plus jeunes, dans les années 70. Pas mal de femmes, d'ailleurs, mexicaines, qui ont pris les rênes de la photographie aussi. C'était Maya Godet et puis Dianella Rossell. Qui sont toutes jeunes.
Et je vais les découvrir.
Vous allez les découvrir et parler avec elles. Alors, parmi les documents aussi peut-être importants, on peut signaler, ça a l'air d'être quand même un peu le trésor là, des rencontres d'Arles de cette année. Il y a une grande exposition aussi sur la Révolution du Mexique avec des clichés d'époque. Là. L'histoire est très présente quand même. Et il y a aussi une exposition, pour poursuivre un petit peu sur le Mexique, des photographies qui sont sorties dans le New York Times Magazine pendant 30 ans. Donc là, il y a un rapport aussi entre la photo d'histoire, le photojournalisme dont vous parliez. C'est un sujet important, comme vous le disiez, puisque toute cette génération de photographes n'avait pas pu exposer pour ces raisons politiquement chaudes.
Ah oui, les photographes ont risqué leur peau à cette époque-là, et il y a eu beaucoup de photographes qui ont été tués, séquestrés, etc. Enfin.
Alors, comme invité d'honneur, encourageux aussi, en voix solitaire et originale, enfin, c'est un mot faible presque, en invité d'honneur, vous avez invité Chris Marker, photographe, écrivain, c'est ce qui fait sûrement aussi sa particularité, c'est d'écrire et d'être cinéaste, dont les témoignages et la conscience politique ont touché plusieurs générations. Parmi ses films plus connus, La Jetée, un vieux film, 1962, mais Le fond de l'air est rouge a beaucoup marqué. Il y a Sans soleil, et alors il y a toutes ces photographies qu'on va découvrir, parce qu'on connaît peut-être plus ces films que ces photos quand on n'est pas photographe. Mais qu'est-ce qui vous touche, vous, Lucien Clerc, dans le travail et l'œuvre de Chris Marker ?
D'abord, c'est vrai que ce film, La Jetée, a marqué toute une génération. Nous l'avons montré à Arles, d'ailleurs, il y a je ne sais plus combien d'années. pour cette simple raison que c'est un film qui a cette spécificité d'avoir une photo immobile au cours du déroulement des images animées d'un film normal. Donc ça avait marqué énormément, c'était une attitude, une façon de voir les choses. S'ajoute à ça que lorsque j'ai commencé à faire des films en 65, mon premier film sur la corrida, mon producteur m'a dit « je vais vous donner la monteuse de Chris Marker ». Alors, j'étais formidablement touché parce que Eva Zora avait fréquenté un homme d'exception et donc j'allais bénéficier un peu de ce contact avec cet homme et pour moi, ça a été un grand honneur. Alors, j'espère qu'il viendra jusqu'à nous parce qu'il est d'un grand âge et j'espère qu'il va bien et que nous aurons l'occasion de parler un peu de tout ça parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer en fait. Et je suis très perplexe et très attentif et curieux de le voir et de découvrir des choses que je suis sûr on n'a encore pas eu l'occasion de voir parce qu'il a été assez discret finalement là-dessus. Il a eu une attitude tellement engagée que parfois ça a occulté son œuvre proprement dite plastique. Et là, il est temps de remettre les choses en ordre et de voir qui est M. Chris Marker.
Le public pourra avoir là à peu près 300 photographies.
C'est formidable.
C'est
formidable.
Une belle exposition.
Exactement.
La photographie évolue. Bon, ça, c'est un beau lieu commun. Les rencontres d'Arles ont décidé cette année de consacrer aussi une exposition à l'élargissement de la photographie au numérique. Et 36 artistes vont exposer. Mais il y a aussi pas une prise de position, mais un moment, un manifeste qui va être lancé et qui s'appelle « À partir de maintenant », c'est le nom du manifeste. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Moi, je vais vous dire, je ne suis pas dans la
confidence. Ou ce que vous pensez.
Hein. Je les laisse faire, d'autant plus que moi, je suis un adepte de la technique argentique et je n'ai pas d'appareil digital chez moi. Mais je ne suis pas contre. Hein. Je veux dire par là que c'est notre époque, ça évolue et c'est très bien. D'ailleurs, je vous prie de vous référer à mon discours d'installation à l'Académie, où j'annonçais à mes confrères qu'ils auraient beaucoup de travail, puisque je prédisais qu'un jour, on nous mettrait une petite puce sous la peau et qu'un clignement d'œil ferait que la photo serait prise. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une boutarde. Je pense qu'un beau jour, ça arrivera. Parce qu'après tout, et je vous rappelle encore que sur mon épée est gravée cette phrase d'Elteil, aujourd'hui, l'œil est le prince du monde. Et c'est donc par l'œil qui, je vous signale, sur les 5 sens, est celui qui recueille 85%. C'est le plus important. Donc, l'œil est vraiment le prince du monde. Alors que ce soit par le digital, par l'argentique, par ce qu'on voudra, c'est très bien. Et là, je suis ravi que toute cette bande de photographes, notamment Martine Parr et Foncuberta, vont parler de tous ces problèmes. Et mon Dieu, moi, avec mon âge, je pense que peut-être qu'un jour je m'y mettrai parce que ce sera peut-être beaucoup plus facile. Ça progresse tous les 3 mois. Hein. Donc il y aura des progrès fantastiques qui feront que lorsque j'aurai enfin cette petite puce sous la peau, je n'aurai plus d'efforts à faire.
Alors Arles, pour terminer, c'est aussi un prix qui a de l'importance. Ça contribue au rayonnement des rencontres d'Arles de la photographie. Et vous organisez aussi cette fois une rétrospective des 10 ans des lauréats des rencontres d'Arles. Quel regard vous portez avec le recul là sur ces,
écoutez,
ces différents
nous
travaux ?
Nous avons, à une époque, on nous disait qu'on était l'équivalent du Festival de Cannes pour le cinématographe. Donc ça prouve bien que cette installation, grâce là aussi à la Fondation Luma et à l'action personnelle de Maya Hoffman, de donner un prix conséquent aux auteurs récompensés et désignés, choisis en grande partie par le public de professionnels, et de voir sur 10 ans quels noms ont surgi, je pense qu'il va y avoir quand même un certain étonnement à voir des noms assez, très retentissants. Je ne les ai pas tous en tête, bien entendu, mais ce sera vraiment cette marque d'Arles qui nous était indispensable. Nous avions été timides à le faire, nous, lorsque nous avons commencé. Il faut dire qu'il y avait tellement à faire qu'on ne pouvait pas s'occuper de tout. Mais moi, j'avais commencé par le livre parce que je considère que le livre, c'est sacré. C'est quelque chose d'absolument sacré. Je n'ai jamais jeté de livre dans ma vie. Alors que lorsqu'on est à New York, on est stupéfait de voir parfois dans les poubelles des dizaines de livres. Là, et j'ai presque envie de les ramasser, de les mettre dans un sac. Mais donc, c'est bien, voilà. Nous allons voir ce que nous avons choisi pendant 10 ans. Et la Fondation Luma a créé un prix supplémentaire cette année. Donc, très bien, bravo. Venez à nous, les petits-enfants de la photographie.
Merci, Lucien Clergue. Et on espère les visiteurs très nombreux aux rencontres d'Arles de la photographie qui se déroule du 4 juillet au 18 septembre 2011, cette année. Et on vous donne rendez-vous pour venir parler quand vous voulez au micro de Canal Académie.
Merci.